Nathalie Riquel, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez présidente, directrice artistique de la marque Sonia Riquel et fille de sa maman, la créatrice Sonia Riquel, qui nous a quittés en août dernier. Vous n'exercez plus désormais qu'une fonction de consultante dans la société et vous devenez peu à peu une femme de lettres. Vous publiez chez Stock votre quatrième livre. Il s'appelle « Écoute-moi bien ». Il raconte la vie de Sonia Riquel, mais surtout sa fin de vie, quand elle est atteinte de P2P. C'est quoi la P2P ?
La P2P, c'est le nom qu'elle-même a donné à la maladie qui l'atteignait, le putain de Parkinson.
Alors c'est autant un portrait d'elle que de vous, évidemment ça ne raconte pas que la fin, il y a plein de souvenirs, il y a les débuts, il y a le milieu, il y a des histoires absolument hallucinantes. Le truc qui m'a le plus étonné, le truc le plus fou, c'est qu'elle vous appelle maman. Comment c'est arrivé et comment vous l'avez pris ?
Je l'ai pris très naturellement. Le jour où elle m'a appelée maman, je lui ai dit « je suis d'accord pour être ta mère, à condition que tu restes ma mère ». Elle m'a dit « oui ma chérie ». En fait, j'ai vécu cela comme une boucle incroyable, accompagner sa mère jusqu'à la fin de sa vie et la voir redevenir enfant, puis bébé, et m'occuper d'elle comme elle s'était occupée de moi enfant.
Le passage le plus difficile, c'est page 71, quand vous avez dû lui faire comprendre qu'elle ne pouvait plus aller saluer sur scène à la fin des défilés. Pourquoi vous ne vouliez plus ?
Pour la protéger.
La protéger de quoi ?
La protéger d'elle-même, de son image à laquelle elle tenait beaucoup.
Quand bien même marchait-elle difficilement ? Et que tout le monde se disait, oh dis donc Sonia...
Elle vacillait, elle marchait très difficilement, elle vacillait, elle était appuyée sur une béquille d'un côté, sur moi de l'autre, et elle n'aurait jamais voulu aller se montrer dans cet état. Et en plus, les gens dans la salle avaient un regard, c'était mais pour combien de temps n'a-t-elle encore ? Et c'était insupportable pour moi en tant que fille. Et en plus, je me devais, pour la société Sonia Riquel, pour le glamour de la marque, je devais aussi protéger la maison. Mais elle n'aurait jamais renoncé.
Faut parler de séduction, vous dites, elle adorait séduire. Il y a des histoires folles. Par exemple, elle est dans un café au Twickenham, pour ne pas le nommer, et il y a un type qui venait tous les jours et qui la fixait sans parler. Normalement, n'importe quelle femme dit « Oh, le relou !» et elle change d'endroit, elle veut lui parler. Mais elle, pas du tout. Elle vous disait quoi ?
On était assises, on déjeunait, tranquillement, et elle me dit « Il me regarde, là ?» Non mais, et là, il me regarde encore ? Elle était folle de joie.
Et 30 ans plus tard, vous racontez qu'il vous est arrivé la même histoire, dans un autre café, au Flore.
Ouais, au Flore, exactement. Le Twickenham n'existait plus. Et j'étais au Flore. J'étais pas avec ma mère, mais j'ai été absolument séduite et fixée par un homme très étrange, très beau, très très beau.
Pendant combien de temps ?
Ça a duré quelques mois, et jusqu'à ce qu'il m'aborde. Comme les grands timides, il a fait des conneries, c'est-à-dire qu'il a foncé, il s'est empêtré, et il m'a invité à prendre un café.
Et vous avez une histoire ou pas ?
Oui !
Est-ce que c'est pas dans le livre ?
Ben non, c'est dans 4 décembre, cher ami, mon livre précédent.
Ah ben voilà, mais lui je l'avais pas lu. Alors, votre maman aussi vous racontait les histoires d'amour, avec les détails, dites-vous. Vous écoutiez...
Elle me racontait tout.
Vous écoutiez... Oui, mais quand on raconte une histoire de voiture, c'est pas comme raconter une histoire d'une nuit passée...
On n'en a rien à foutre des histoires de voiture, Philippe.
Ah, ça, je suis bien d'accord avec vous. Ma question était, est-ce que vous l'écoutiez avec attention ou vous lisiez « Maman, arrête, ces choses-là ne me regardent pas ».
Non, j'écoutais avec attention, on se racontait tout. J'étais sa confidente, j'étais son amie, j'étais son double, j'étais la nuit, elle était le jour, j'étais le jour, elle était la nuit. On était vraiment extrêmement fusionnels, avec des moments où c'était insupportable.
Qu'est-ce qui était insupportable ?
Elle voulait pas me laisser partir. Elle me l'a toujours dit. Elle a tout fait pour que je reste auprès d'elle, pour que je travaille avec elle. Comment elle a fait ça ? Elle a rendu ça extrêmement sexy, extrêmement séduisant. Tout était palpitant, tout était formidable, tout était bien mieux qu'ailleurs. Et je suis restée et j'ai construit ma vie auprès d'elle, tout en vivant plein d'autres choses.
Ah, il faut le raconter, parce que vous avez eu 3 filles, vous avez eu 3 maris, vous le racontez, et vous racontez même avoir eu plein d'amants. Donc vous n'étiez pas séquestrée par votre mère.
Mais pas du tout séquestrée, ni elle non plus. On a eu des vies de femmes extrêmement pleines, extrêmement libres. On a vécu plein de couples chacune, dont le nôtre. Et ce couple mère-fille a été extrêmement riche, sans être excluant pour le reste. C'est ça qui a été extraordinaire.
Nathalie Riquel avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Nathalie Riquel avec nous, la fille de Sonia, vous parlez d'elle dans votre 4e livre, il s'appelle « Écoute-moi bien ». Vous présentez comment désormais ? Comme femme de lettres, comme écrivain, comme écrivaine ?
Écrivaine, j'aime pas, je sais que je vais être houspillée, mais j'entends dans écrivaine le mot « veine », alors que dans écrivain, je n'entends pas le mot « vin ». Je ne sais pas pourquoi. Femme de lettres, c'est trop prétentieux pour moi. J'écris, tout simplement.
Vous êtes également consultante auprès de la marque Sonia Riquel, créée par votre maman, pour laquelle vous avez travaillé pendant des années. Vous avez été jusqu'à la présidence, vice-présidence ?
J'étais présidente.
En 2010, 430 employés, 108 millions de chiffres d'affaires, 65 boutiques dans le monde. Et aujourd'hui ? Vous ne le savez pas ?
Je le sais, mais j'ai envie de dire...
Vous n'avez pas envie d'en parler ?
Oui, j'en parle pas aujourd'hui.
Pour quelle raison ?
Mais je n'ai pas envie de parler chiffres.
Alors juste un mot, la marque a été vendue à un fonds d'investissement chinois. Pourquoi c'est impossible de garder ces marques en France ?
Parce que au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire en 2012, quand j'ai commencé à envisager cette cession, c'était le business pour une affaire patrimoniale, familiale, totalement autofinancée, n'était plus possible alors que les grands groupes financiers avaient pris la mainmise sur absolument toutes les maisons de mode. On ne pouvait plus être les compétiteurs en face de ces groupes-là, c'est financièrement tout simplement.
Vous aviez une marque de fabrique chez Sonia Rykiel, il y en avait beaucoup. Vos mannequins, elles n'avaient pas, comme chez tous les autres, ou quasiment tous les autres, l'interdiction de sourire et l'obligation de faire la gueule.
Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je leur demandais d'être des femmes, d'être vivantes, d'exprimer ce qu'elles ressentaient.
Ah oui ?
Et effectivement, je crois qu'on était les seules.
Oh, dis donc, vous êtes très polie au micro de France Info. Dans votre livre, on peut le dire, vous leur demandiez de, je cite, « tortiller du cul ».
Pas seulement, de tortiller du cul, de se déhancher, de marcher comme des mecs. Je leur demandais de vivre, d'être des actrices, d'être des femmes, de se marrer, de respirer le vêtement. C'est ça qui m'a toujours habitée. C'est certainement pas d'être des porte-manteaux.
Tout à fait autre chose. Votre maman, Sonia, a innové. C'est elle qui avait inventé les pantalons sans ourlet, les coutures visibles. Et pour les femmes, le pull a même la peau sans soutien-gorge. Et je me suis dit, mais c'est impensable aujourd'hui. Pardon de dire mon âge, mais moi, quand j'étais en première terminale, les filles, l'été, au printemps, venaient en classe sans soutien-gorge. C'est impossible de voir ça maintenant dans le métro, au travail ou en cours. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la liberté a régressé ? Que vous inspire notre époque ?
Mais je m'en fous, ça m'est égal. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'un enfant, on est obligé d'élever un petit enfant de moins de 6 ans en lui expliquant ce qu'il devra faire en cas d'attentat ou s'il entend une bombe. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, qu'une femme porte ou pas un soutien-gorge ?
En 2002, Nathalie Rykiel, vous inventez quelque chose dont tout le monde parle encore. Vous êtes la première dans une grande maison, une grande boutique à vendre des sextoys. Comment vous était venue l'idée ?
Très simplement. Je trouvais que c'était très cool, puis je trouvais que c'était très drôle, et puis je trouvais qu'en plus, s'ils amenaient les femmes au plaisir, sans hypocrisie, pourquoi est-ce que Rykiel se priverait de les offrir et de les faire connaître aux femmes ?
Et vous avez une force de caractère, y compris dans la société, puisque beaucoup de gens, paraît-il, étaient opposés.
J'ai réuni tous les gens chez Rykiel, et ouais. Je leur ai parlé, c'était normal. Et il y a des gens qui m'ont dit que j'allais détruire tout ce que ma mère avait construit. Je leur ai dit, écoutez, non, je ne crois pas, faites-moi confiance. Il n'avait pas le choix.
C'était vous la patronne. Et votre mère, quelle réaction elle avait ?
Elle avait les yeux très très allumés, très brillants. Et elle était un petit peu jalouse de ne pas avoir eu l'idée.
Vous racontez des choses sur elle dans votre livre, mais qui m'ont halluciné. Page 127, vous racontez que votre maman vous passe les clés de son studio.
Vous êtes quand même vraiment gonflé de raconter les trucs les plus croustillants.
Ah ben je ne vais pas me gêner, disons c'est croustillant, j'en profite. Et c'est vous qui l'écrivez où elle allait pour baiser. Mais comment on peut écrire ça de Sonia Rykiel ?
Mais enfin, Sonia Rykiel, c'est une femme géniale, et c'est une femme qui baisait, et c'est une femme qui avait des amants.
Et là, vous découvrez, je cite, c'est la page d'après, dans son studio, des boules de geisha qui séjournaient chez ma mère.
Bah oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Vous l'avez dit, vous l'avez lu, haut et fort.
Ça s'appelle, écoute-moi bien, elle s'appelle Nathalie Rykiel, et on est ravis qu'elle soit avec nous sur France Info. Nathalie Rykiel, avec nous, qui vient de publier chez Stock, écoute-moi bien, c'est votre quatrième livre, il parle de votre maman, mais de vous, de votre enfance, de votre construction de femme, même de votre famille, de vos filles. Vous dites, page 49, j'ai passé ma vie dans la mode, j'ai travaillé dans la mode, et je n'aimais pas la mode. C'est vrai qu'au départ, vous vouliez être médecin ?
Non, c'était la filière logique.
Ah.
Suite à mes études, mais je pense que j'ai jamais envisagé sérieusement d'être médecin. Et c'est pas vrai non plus que j'aimais pas la mode. Je n'étais pas... Je feuilletais pas... Oui, non, je cherchais pas...
Page 49, je l'ai lu le livre.
Oui, mais j'aimais pas la mode dans le sens où je ne passais pas ma vie à feuilleter les magazines pour voir comment j'allais m'habiller.
Vous écrivez, alors oui, j'avoue, j'ai passé ma vie dans la mode, j'ai travaillé dans la mode et je n'aimais pas la mode. Je ne l'ai pas inventé, c'est vous qui l'avez écrit.
Vous ne l'avez pas inventé, je l'ai écrit. D'abord, j'ai le droit d'écrire ce que je veux, j'ai même le droit de mentir, j'ai le droit de me contredire. J'aimais pas la mode dans le sens où je n'étais pas une fan de mode, mais j'ai adoré travailler dans la mode.
Rykiel, c'est pas le nom de jeune fille de votre mère, mais le nom de son premier mari. Qu'elle a quitté
son
d'ailleurs.
Son seul et unique mari.
Ouais, pour fonder son entreprise. Est-il vrai que même les sœurs de votre mère ont pris le nom de Rykiel ?
Non, elles l'ont pas pris, c'est pas vrai. Mais c'est un terme générique, c'était les filles Riquiel, quoi. C'était
les sœurs Riquiel.
Les sœurs Riquiel.
Alors voilà. Qu'elles s'appellent pas Riquiel. Vous l'avez raconté dans votre livre « Tu seras une femme, ma fille ». Est-il vrai que votre maman savait monter et descendre les escaliers sur les fesses ?
Par la force des choses, elle l'a fait. Quand elle a commencé à être malade, oui, absolument. Et en détournant le truc, pendant rigolant.
Alors, il y a une chose qui est rédhibitoire chez vous, si c'est vrai. Est-il vrai qu'il vous est arrivé de repartir de chez quelqu'un parce qu'en arrivant chez lui, vous découvrez qu'il n'y a pas de livre ?
Ah oui, je peux pas rester chez quelqu'un qui n'a pas... Je pourrais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'a pas de livre. Je pourrais pas passer la nuit chez un homme qui n'a pas de livre.
Vous avez même dit, c'est comme s'il avait mauvaise haleine.
Un peu.
À propos de livres, est-il vrai que vous avez toujours refusé de lire le livre érotique qu'avait écrit votre maman ?
Ah oui.
Mon info, toujours pas. Mon info date de l'an dernier, peut-être que depuis vous l'avez lu.
Ah non, j'ai pas du tout envie de lire les trucs érotiques qu'a écrit ma mère.
Et vous aviez écrit un chapitre érotique dans un livre, et vous avez dit à Match que vous avez refusé que vos filles le lisent.
J'ai dit à mes filles qu'elles n'avaient pas à le lire, mais elles font ce qu'elles veulent, elles sont grandes.
Elles l'ont lu ou pas ?
J'en sais rien.
Vous l'aurez pas demandé ?
Non.
Ah, vous n'êtes pas fusionnelle avec vos filles, comme votre maman était fusionnelle avec vous ?
Je crois que je suis une mère merveilleuse, il faut demander à mes filles. Mais je ne pense pas être la même mère avec mes filles que ma mère a été avec moi.
On reste au chapitre du matriarcat. Est-il vrai qu'il y a 10 ans, à peu près, vous avez viré tous les hommes de la marque Sonia Riquiel ?
Mais pas du tout. Alors ça, c'est vraiment la légende. Et c'est une...
Je veux dire d'où ça vient. Ça vient du magazine Capital.
Je sais, c'est pas la peine de les citer.
Juin 2008.
Mais c'est pas la peine de leur faire de la pub et de les citer. C'est vraiment un type mal embouché qui a écrit ça à l'époque où mon mari et moi avons divorcé et où il a quitté l'entreprise. Donc, comme je venais de lancer les sextoys quelques temps plus tôt, il a écrit même, cet idiot, dans cette entreprise, les femmes se satisfont avec les sextoys, elles n'ont pas besoin des hommes. C'était vraiment ridicule, c'est vraiment un torchon.
Est-il vrai, est-il vrai que c'est vous, Nathalie Riquiel, qui avez inventé le terme sextoy ?
Je ne sais pas, mais si c'est le cas, j'en suis très fière. Parce que c'est vraiment un jouet pour le sexe.
Oui, ça ne m'avait pas échappé. Mais ma question était, est-ce que vous avez chopé le nom ailleurs ou est-ce que vous vous êtes dit, je ne peux pas vendre ça sous le nom de vibromasseur ou d'autres termes techniques ? Et vous vous êtes dit, on va l'appeler comme ça. C'est dans Elle que j'ai lu ça. C'est Nathalie Dupuis du journal Elle qui dit que c'est vous qui avez inventé le terme.
Je crois que j'ai... Franchement, je ne me rappelle pas si je l'ai trouvé à l'extérieur. En France, moi, je n'avais aucun problème à utiliser le terme. Les termes, c'était Godemiché ou vibromasseur. Mais il n'y avait pas un terme générique. Et c'était vraiment des jouets pour le sexe. Donc, c'était sextoy. Je pense que ce terme existait, bien sûr, à l'étranger. J'ai dû le piquer à l'étranger.
Et c'est pas vous qui avez inventé le vibromasseur en forme de canard ?
J'ai rien inventé, vous savez. Moi, j'invente pas. Je m'amuse.
Merci beaucoup, Nathalie Riquiel, d'être venue nous voir.
Je vous en prie, c'est un plaisir.